France Inter, le 18-20.
Ça commence comme les accords de Paris après la COP21, un très grand rassemblement à Paris de chercheurs, de scientifiques, d'experts qui pendant 3 ans ont recueilli des données, ont évalué des écosystèmes et ils ont compté. Et compté parce que quand on parle de biodiversité, on peut très vite ne pas savoir exactement de quoi on parle. En réalité, c'est extrêmement simple. La biodiversité, ce sont toutes les espèces de la planète, animale ou végétale. Et les compter, c'est constater que la 6e extinction est bien là. On en a déjà parlé, ici même aussi d'ailleurs, on l'a déjà dit, mais cette fois c'est acté de manière irrévocable. C'est montré comme on montre de la banquise qui fond, des niveaux d'eau qui montent, mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux, poissons, tous sont concernés. Je disais, ça démarre comme les accords de Paris parce que climat et biodiversité, évidemment, même combat, est ce que veulent les chercheurs qui vont rendre la semaine prochaine un épais rapport de 1800 pages, c'est créer un électrochoc, une prise de conscience. Alors on a quand même envie de répondre un peu que les accords sur le climat ont un peu de plomb dans l'aile. On espère que peut-être cette fois-ci, avec la biodiversité, on arrivera à relancer cette machine. Car si un phénomène exceptionnel comme la glaciation, comme des météorites, a provoqué les extinctions précédentes cette fois, c'est notre faute. C'est nous seulement. Cette 6e extinction est la première depuis l'apparition de l'homme et c'est lui qui la crée. Alors est-ce que l'enjeu qui accompagnait celui du climat sera le même autour de la biodiversité? Est-ce que l'un permettra peut-être à l'autre finalement de mieux faire progresser les deux causes et inversement? On voit ça ensemble dans le téléphone sonne. On verra surtout s'il est déjà trop tard ou pas.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Véronique, c'est vous qui commencez. Soyez la bienvenue au téléphone sonne. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Eh bien, moi, c'est quand j'entends ça, ça me met dans une furie terrible parce que dans les années 60, 66, on a Alerte à l'homme, un des premiers livres sur la protection de la nature et de l'environnement, qui dit si vous ne faites pas ça et ça en l'an 2000, voilà ce qui va vous arriver. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'on a passé 20 ans de l'an 2000, que l'on a rasé des forêts. Si on a rasé des forêts en Afrique, on a rasé des forêts en Malaisie. Par exemple, si vous prenez la forêt du Sarakawa en Malaisie, elle a été rasée à 80%. Et donc, après, on va dire, oui, mais on replante du teck. Mais si on replante que les mêmes essences, si on replante que du sapin, si on replante que du teck ou de l'huile de palme, il n'y a plus de diversité. C'est ça qui est terrible. Et ensuite, on croule sous nos déchets. On disait aussi, attention, la nature n'en peut plus. Déjà dans les années 68. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien.
On le disait pas très fort à l'époque, hein, Véronique. Tout à fait honnêtement, on le disait pas très fort, ça, à l'époque.
On a fait quand même 30 ans d'émissions sur la protection de l'environnement. Si vous prenez Visa pour l'avenir de Nicolas Skrotsky, il y avait un courant écologique, mais les écologistes, on les traitait comme des fous. Et à côté de ça, la corruption des gouvernements, la corruption des grandes entreprises qui vraiment ont pillé la planète.
Véronique,
et nous, on n'a pas... c'est une horloge, la planète est une horloge formidable parce que tout sert, tout a une fonction.
Véronique, merci beaucoup, merci à vous pour cette entrée en matière. Pardon, on vous interrompt, mais il faut que tout le monde ait l'occasion de parler. Il y a beaucoup d'appels et puis qu'on essaie de comprendre aussi ce qui va se passer, de quoi on est en train de parler quand on parle de 6e extinction. Mais merci vraiment pour cette entrée en matière et pour ce coup de gueule aussi, parce que on comprend bien ce que vous êtes en train de nous dire. On nous en parle depuis des années et c'est au moment où on est au milieu de la catastrophe que enfin on se réveille. Pour répondre à vos questions, Véronique, vos interrogations et celles qui vont suivre jusqu'à 20h, Paul Hidley est là. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Sud, spécialiste du changement climatique et de ses répercussions sur les écosystèmes. Vous êtes aussi l'un des auteurs du fameux rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité qui est réunie à Paris cette semaine. Donc vous êtes vraiment en tête de pont, si je puis dire. Bonsoir Gilles Boeuf.
Bonsoir.
Vous êtes en duplex de Bordeaux. Merci à nos confrères qui vous ont accueilli. Vous êtes biologiste, ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et puis Sandy Dauphin est là aussi, bien sûr. Bonsoir Sandy.
Bonsoir.
Spécialiste environnement à France Inter. Paul Hidley a la raison, Véronique. Hein. On a tapé des coups dans l'eau pendant des années. Alors, elle est peut-être un peu optimiste. Dans les années 60, on le disait, ça dépassait rarement quelques frontières. Mais là, la catastrophe, on nous la promet. Et nous, on dit oui, oui. Et ben, c'est ça, elle est là maintenant.
Donc, je pense qu'elle a raison. C'est-à-dire que les années 60, on savait, par exemple, que le DDT était très délétère pour certains oiseaux. mais c'était cantonné peut-être à certains endroits, à certains groupes d'espèces. On est sur un constat qui est beaucoup plus large à l'heure actuelle, c'est-à-dire que on parle d'un très grand nombre d'espèces qui sont en déclin, avec un nombre énorme qui sont menacées d'extinction. Donc on a changé un petit peu
d'échelle. On parle de quelles espèces exactement, les espèces les plus en danger, quelles sont-elles? Est-ce que ça veut dire que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, est-ce qu'on peut le situer dans le temps, ne verront jamais quoi, en fait, que nous pouvons voir aujourd'hui?
Donc, peut-être l'écosystème qui est parmi les écosystèmes qui sont le plus en danger à l'heure actuelle sont les récifs coralliens dans les tropiques. Et entre la pollution, le changement climatique, l'acidification des océans, il y a énormément de récifs coralliens qui sont dégradés. Moi-même, j'ai eu la possibilité de faire de masques et tubas dans les récifs coralliens il y a vingtaine, trentaine d'années. Et actuellement, c'est difficile de trouver les récifs qui sont en bon état. Et je pense que pour nos petits-enfants, si on fait rien, il y aura très, très peu de récifs coralliens en bon état.
Gilles Boeuf, est-ce que le fait de visualiser, en fait, de penser à des animaux qui disparaissent, à un certain nombre de végétaux, on parlait du corail, c'est des images qui nous sont extrêmement familières, est-ce que le fait qu'on soit dans ce vivant-là, auquel nous sommes, nous, habitués, peut servir cette cause-là, en fait? Peut-être plus facilement même que le réchauffement climatique, au fond.
Bien entendu, pour la raison quand il parle du corail. Le corail, en surface, par rapport à l'océan mondial, c'est quoi? 0,2% peut-être? Mais c'est plus du tiers des espèces que l'on connaît dans l'océan. Ce qui veut dire que chaque kilomètre carré du corail qui s'en va, c'est énormément d'espèces de toucher. On peut comparer sur Terre à la forêt tropicale humide dans le bassin du Congo, en Amazonie, ou en Asie, les îles de Bornéo, ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, dans les groupes les plus menacés chez les vertébrés, on parle beaucoup des amphibiens, qui sont ces animaux incroyables, qui sont sortis de l'eau, qui ont été capables de passer d'une respiration aquatique à une respiration aérienne, et qui sont toujours là, mais terriblement menacés, en fait, parce qu'on détruit leurs mares, on les pollue, on les assèche, puis on transporte des maladies partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport aux années, il y a 40 ans ou 60 ans, dont parlait cette dame, c'est qu'on est quand même beaucoup plus nombreux, et que les impacts sont beaucoup plus forts. Et aujourd'hui, ce qui détruit ce vivant, c'est la destruction systématique des écosystèmes, dont le corail ou la forêt tropicale, bien sûr. C'est aussi, bien sûr, la pollution partout. Des zones où l'humain n'est pas, en Arctique et en Antarctique, sont contaminées par des produits qu'on a mis sur nos champs il y a 70 ans. La dissémination de tout partout. Et bien sûr aussi la surexploitation, la forêt tropicale qui s'en va, on l'a dit, ou bien la surpêche. Ce climat...
Est-ce qu'on peut, Gilles Boeuf ou Paul Didly, est-ce qu'on sait, ça doit être extrêmement compliqué, mais est-ce qu'on sait qui est responsable de quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est un tout avec les trois à la fois, ou est-ce que c'est plutôt le réchauffement climatique, plutôt la destruction des habitats, plutôt la surexploitation agricole qui provoque ces extinctions-là? Est-ce que c'est un mix des trois, ou est-ce qu'il y a des endroits où on peut dire, là, c'est la déforestation, là, c'est la surexploitation agricole?
Donc, par exemple, sur des écosystèmes terrestres, on sait que c'est surtout le changement d'utilisation de terre, la destruction de forêts, l'augmentation des surfaces agricoles. En mer, c'est autre chose. Et c'est surtout la surexploitation des pêcheries qui pose des problèmes. Donc, ça dépend où. Mais c'est une combinaison de changement d'utilisation de terre, destruction d'habitat, de pollution, de surexploitation et aussi des espèces invasives.
Et même en France, hein, l'artificialisation des terres, on bouche entre guillemets beaucoup de mares. Hein. Une mare, c'est vital, c'est la vie. Hein. Ça sert de tampon pour l'eau.
C'est
mais
important
c'est
de
aussi,
dire, c'est pas, on ne parle pas seulement
voilà,
des grandes espèces.
On parle souvent des espèces emblématiques, le panda,
Le
panda, l'éléphant, bien sûr. Mais en fait, les espèces menacées sont également les batraciens, les insectes volants, ceux que vous avez envie d'écraser sur votre bras certains jours. Voilà, c'est ces espèces-là aussi qui sont très très menacées.
Jean-Louis, bonsoir.
Ah oui, bonsoir.
On vous écoute, Jean-Louis, allez-y.
Alors moi, je voulais juste me faire aider parce que, bon, évidemment, je suis complètement convaincu de la nécessité de maintenir une biodiversité. Je suis affolé par par tout ce que je lis depuis pas mal d'années. Je suis pas tout jeune, j'ai commencé à lire les Cousteau et Christian Zuber et compagnie déjà quand j'étais ado. J'ai du mal à convaincre les gens, à avoir des arguments. Quand les gens me disent les ours polaires, qu'est-ce que vous avez, ils disparaîtront. Bon, bah voilà, comme disait une dame là avec qui j'ai parlé chez vous, so what. Un exemple, le loup qui avait disparu.
À quoi ça sert un ours polaire? Allons bon.
Mais exactement. et le problème en plus là, c'est on prend des espèces voyantes, emblématiques, etc. Alors je vous dis même pas la petite grenouille X ou Y du fin fond de l'Amazonie ou de chez nous. Les gens à la rigueur comprennent un peu l'extinction d'une espèce qui nous sert, qu'on mange, disparition des morues par exemple quand il y a eu les stocks de morues, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai du mal à avoir des arguments scientifiques qui montrent que on fait partie de tout ça et nous aussi on va en pâtir complètement de ce manque de richesse de biodiversité.
Voilà. Merci beaucoup Jean-Louis. Comment il fait Jean-Louis pour convaincre autour de lui que oui, c'est important, c'est grave, et que même un ours polaire qu'on ne verra jamais, quand il n'y en a plus sur la banquise, ça dit d'autres choses.
Donc, le rapport d'IPES va vraiment traiter cette question parce qu'on a cette crise de biodiversité, mais on sait que la biodiversité est essentielle pour nous. Et je donne juste quelques exemples. Les forêts tropicales. À quoi sert toute cette diversité dans les forêts tropicales? Ces forêts tropicales, on appelle des poumons de notre terre parce qu'ils stockent une quantité énorme de carbone et aussi ils empêchent des inondations. Donc il est important qu'on conserve ces forêts parce que ce stockage de carbone empêche que cette carbone se retrouve dans l'atmosphère et contribue à le réchauffement climatique. Donc on peut trouver plein d'exemples comme ça, comme les abeilles qui pollinisent des plantes, surtout les légumes et des fruits. Sans des abeilles, on n'aura pas des légumes et des fruits.
Et même si c'est très compliqué, c'est comme ça qu'on arrive à convaincre de lutter contre le réchauffement climatique, notamment avec des exemples extrêmement précis. C'est vrai aussi de la biodiversité. Sandy Dauphin, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, enfin, il y a des on peut admirer la nature, mais là, il s'agit bien au-delà des bienfaits de la nature, ne serait-ce que la sécurité alimentaire. Si les sols sont appauvris, c'est plus difficile de les cultiver. L'accès à l'eau potable. C'est aussi une question de survie pour de nombreuses personnes.
Gilles Boeuf, est-ce que tout cela, on peut l'arrêter en fait? Est-ce qu'on peut arrêter cette course folle? Parce qu'on a un peu l'impression d'un cheval au galop. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Ou est-ce qu'on va devoir à un moment choisir de sacrifier certaines espèces pour en préserver d'autres?
Non, ça je n'y crois pas du tout. D'autant plus qu'on ne sait pas le faire. Il faut garder le vrac, il faut tout garder avec nous. Oui, on peut l'arrêter. Sur les sept plaies actuelles de l'écologie, la seule où c'est trop tard, c'est le climat. On ne peut plus empêcher le climat de changer. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on réduise les effets et qu'on s'adapte à ce changement. Toutes les autres, le productivisme agricole, l'eau potable que vous évoquiez, l'effondrement du vivant, la déforestation, la pollution, tout ça, on peut les arrêter. Bien sûr, c'est nos comportements à nous qu'il faut revoir. Avec du respect pour ce qui n'est pas humain. Sachant que cet humain ne survivra pas sans le non-humain qu'on évoque ici. Tout à l'heure, une dame disait la petite grenouille. Je rentre juste du Chili où je m'intéresse à une petite grenouille qui est la petite grenouille de Darwin, qui ne vit que en Patagonie. Tout le monde s'en fout. Et pourquoi elle s'en va? Parce qu'on remplace ces magnifiques forêts d'araucaria par de l'eucalyptus et du pin. Et c'est partout pareil. Cette inconscience généralisée parce qu'on est cupide, imprévoyant et arrogant, on peut pas la continuer comme ça. Il faut qu'on change.
Paul Lidley, qu'est-ce que vous espérez, en fait, de ce rapport? Est-ce que, je faisais la comparaison tout à l'heure avec la COP 21, une espèce de prise de conscience. Est-ce que c'est ça que vous cherchez à obtenir? Moi, je suis assez curieuse de voir pourquoi ces deux débats, d'ailleurs, sont séparés, au fond. Pourquoi est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas la même que celle contre la perte de la biodiversité?
Donc, première chose, ce qu'on espère de ce rapport, c'est que il démontre très clairement la crise de biodiversité et il quantifie. Donc, deuxièmement...
Ce que je disais, il compte, c'est important de voir que les chiffres descendent.
Voilà. En fait. Et qu'on explique pourquoi la biodiversité est importante pour nous. On dépend de la biodiversité, il faut qu'on explique à tout le monde pourquoi elle est importante pour nous. Et peut-être le plus important, on explique comment on peut sortir de cette crise. Et cette évaluation va vraiment aborder cette question. Quelles sont les portes de sortie?
La solution la plus simple, avant de retourner au standard, l'une des solutions les plus simples, ce serait quoi, selon vous?
Il n'y a pas de solution magique. Il y a plein de solutions. Je prends juste un exemple.
Allez-y.
On peut changer notre régime alimentaire en mangeant sainement, équilibré. On peut préserver à la fois le climat et aussi la biodiversité. Donc pourquoi? Si on diminue un petit peu la viande rouge dans notre régime alimentaire et on mange plus de légumes, sans prendre moins de place pour produire cette nourriture, et en plus, des animaux qui produisent de la viande produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc on peut diminuer à la fois l'impact sur le climat, l'impact sur la biodiversité et améliorer notre santé. Donc, ça, mais il y a plein de mesures comme ça et on ne va pas arriver avec l'idée qu'on va faire qu'une seule chose.
D'autant qu'il y a des choses qui sont applicables chez nous, qui sont moins applicables ailleurs, y compris la consommation de viande. D'ailleurs, on voit bien que chez nous, ça baisse. Dans d'autres pays, ça augmente pour les raisons que l'on connaît. D'ailleurs, dès lors qu'un pays prend l'essor, sa consommation de viande augmente. Il y a quelque chose de très corollaire là-dessus. Donc, chacun, à chaque endroit, finalement, ces solutions diverses.
Alors, j'avais une question parce que pendant longtemps, on a opposé le développement économique à la protection de la nature. Est-ce que vous sentez un frémissement chez les décideurs politiques actuellement?
Donc, il y a un frémissement à la fois, je pense que pour les décideurs politiques...
Cet instant de réflexion, on dit beaucoup, Paul Lidley.
C'est parce que je voulais répondre, ce que je ressens presque encore plus, c'est un frémissement dans les entreprises. Mm-hmm. Je pense que pour le changement climatique, il était absolument essentiel que le changement climatique était pris en charge, pas seulement par le gouvernement, mais il était pris en charge par les collectivités locales, il était pris en charge par les entreprises, il était pris en charge par l'ensemble des citoyens. Et c'est cette pression et cette sorte de mouvement social qui a fait en sorte que le changement climatique a réussi quelque part aux accords de Paris. Enfin, et donc, oui, voilà. Effectivement.
Voilà, on n'y est pas encore non plus quand on regarde les résultats de chacun par rapport aux promesses faites aux accords de Paris, on n'y est pas. Mais enfin bon, chaque chose en son temps. Gilles Boeuf, vous vouliez intervenir?
Oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec Paul. Il nous faut l'adhésion de tout le monde. Les frémissements, moi je le vois beaucoup dans le monde de l'entreprise. Par exemple, j'étais invité l'an dernier à l'école d'été du MEDEF. Vous imaginez, le MEDEF, il y a 10 ans, a invité un écologue. Mais tout le monde aurait rigolé. Et le thème, c'était « sale temps pour la planète ». Et le sale temps, il n'est pas pour la planète, il est pour nous tous, en fait. Il faut qu'on se rende compte qu'on n'est pas là pour sauver la planète. Elle se débrouille très bien toute seule, elle s'en fout, la planète, si je parle un peu trivialement.
La planète survivra à nous, vous voulez dire.
Mais bien sûr, c'est l'humain, avec ses activités économiques, avec nos enfants, nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Regardez ce mouvement des jeunes aujourd'hui, pour le climat et aussi pour la biodiversité. Ils sont exaspérés de notre égoïsme, notre cynisme. Et ça veut dire aujourd'hui, tout à l'heure vous parlez d'espèces qui avaient disparu, on pourrait en citer, qui ont disparu il n'y a pas très longtemps. Ben moi j'ai eu le droit au dauphin du Yangtze-Kiang, ma petite fille, non. Alors si l'ours polaire disparaît, ça ne change pas mon travail de tous les jours et mon métier de tous les jours. Mais c'est un signal dramatique. En plus, au niveau très pratique, l'ours polaire, il mange quand même des millions de phoques chaque année, et c'est faux qu'ils vont manger trop de poissons pour les pêcheurs. Tout est lié. Et moi, je suis entièrement d'accord avec Paul, il y a un frémissement assez fort dans les entreprises politiques. Il va falloir qu'on change notre façon de faire. Ouais,
sauf que c'est pas contraignant, encore une fois, Gilles Boeuf.
C'est juste,
comme pour
c'est
la COP. Rien n'est contraignant. Peut-être qu'à un moment, il faut jouer à la contrainte, non?
Il faudrait bien. La question, c'est que le monde politique vit à très court terme. Regardez le drame de la chlordécone, par exemple, dans les îles des Antilles, du chlordécone. Il faut qu'on change.
C'est quoi le chlordécone?
C'est un produit qui a été utilisé pour traiter un coléoptère, un charançon, sur les bananes. Okay. Et qui a empoisonné cette terre pour des centaines d'années. C'est là qu'on ne peut pas réagir comme ça. Il faut penser un petit peu aux autres, qu'on se préoccupe du futur. C'est fondamental. Vous savez, c'est Groucho Marx qui disait « Pourquoi j'irai faire quelque chose pour mes descendants et n'ont jamais rien fait pour moi ?» Et on continue comme ça aujourd'hui.
Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
Vous êtes à Toulouse, Mathias, on vous écoute.
Oui, tout d'abord, merci Gilles Boeuf pour sa verve et qui défend la voie. Enfin, je suis chercheur en écologie aussi et je suis effrayé, atterré. Je suis, en colère, mais en colère, une colère, vous pouvez même pas vous imaginer, nous sommes dans une situation catastrophique. Mais catastrophique, ça veut dire que même peut-être d'ici 20 ans, nos États n'existeront plus. Et tout ça, peut-être même pas juste avec le, à cause de réchauffement climatique, mais de l'effondrement des écosystèmes. On voit déjà les rendements agricoles en France s'effondrer. Alors cette histoire, elle est vieille, elle est ancienne. Hein. C'est pas juste nous, la société industrielle, etc., etc. Ça fait plus de 100 000 ans. C'est un papier qui est sorti l'an dernier qui a démontré que en fait l'homme avait un impact massif sur la mégafaune de tous les continents. Donc en fait c'est un effet boule de neige qui dure depuis des dizaines de milliers d'années, qui nous amène dans un mur en fait. Donc si nous ne changeons pas immédiatement c'est dans l'année, c'est-à-dire provoquer vraiment une révolution agricole, donc une agriculture écosystémique, une agriculture qui soit connectée avec des écosystèmes, avec des espaces protégés, etc. Il y a un article qui est sorti la semaine dernière avec une série de guidelines, une série de guides pour changer de manière à avoir une résilience. On sait aujourd'hui, avec toutes les données qu'on a, des milliards de données qu'on a en écologie, on sait à peu près où on va, on sait à peu près ce qu'il faut faire, et tout ça, c'est indiqué dans des papiers que les scientifiques écrivent. Ben, il faut simplement, à un moment donné, que les politiques, ils apprennent à lire.
Alors, il faut simplement, Mathias, on y serait. C'est très très compliqué pour tout le monde, visiblement, mais on entend à la fois votre colère et aussi, parfois, Paul Lidley, il y a effectivement des choses qui peuvent être, sinon simples, en tout cas assez automatiques. Je vais vous poser la question comme ça, pourquoi ça marcherait, la prise de conscience immédiate dont parlait Mathias, ça marcherait plus là, maintenant, que au moment de la COP21, ou même avant, quand on parle de réchauffement climatique. La vraie prise de conscience qu'attend Mathias, est-ce que vraiment vous avez le sentiment qu'elle est là? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, réellement, grâce à votre rapport, on changerait des choses?
Bon, c'est pas demain que tout va changer. On sait bien que les choses, malheureusement, changent plus lentement qu'on espère. Mais je donne juste un exemple de le rapport qu'on va rendre. Par la suite, il y aura la Convention sur la diversité biologique en 2020, et on espère qu'il y aura un accord en Chine, un peu l'équivalent de l'accord de Paris sur le climat. Et les gouvernements vont prendre des positions très fortes sur la conservation de la biodiversité, en espérant que cette fois-ci, ils mettent aussi les moyens derrière.
C'est ça, en espérant que cette fois-ci, et pardon, je veux surtout pas être pessimiste, mais je vous entends, j'ai l'impression de nous entendre à la sortie de la COP21, effectivement, et en espérant que cette fois-ci, est-ce que nous traînons comme un boulet, on parle de votre rapport qui fait 1800 pages, il y a tout à l'intérieur, il y a eu un nombre de rapports du GIEC sur le climat, je sais même pas combien il y en a eu, Sandy Dossin, vous allez pouvoir m'aider là-dessus, mais beaucoup de rapports du GIEC récemment qui ont été finalement vécus comme des coups d'épée dans l'eau, donc à quel moment est-ce qu'on est dans une période plus favorable, selon vous, pour que enfin quelque chose de fondamental se passe ou pas? Blanc. Eh ouais, je sais pourquoi je crée un blanc quand je pose ce genre de questions.
Non, c'est très compliqué. Donc, je travaille beaucoup sur les questions de futur, avec les scénarios et des modèles. Donc, les pires scénarios, en général, sont des scénarios où c'est chacun pour soi. Donc, malheureusement, on est dans une période politiquement qui est un peu chacun pour soi. Mm-hmm. Et quand on regarde ces scénarios, ils sont systématiquement assez négatifs pour la biodiversité et aussi pour les services écosystémiques. Donc, on n'est pas en conjoncture extrêmement favorable, mais tu n'es pas perdu non plus. Je pense que si on avait fait cette discussion il y a 3-4 ans, juste après les accords de Paris, on serait peut-être plutôt en train de parler de façon positive. Donc, je pense que les choses peuvent rebasculer dans l'autre sens, et c'est aux citoyens de réagir et de faire en sorte que les politiques répondent à nos demandes.
Alain, bonsoir. Alain, on vous écoute, Alain, vous êtes là.
Oui, ben écoutez, je pense que en fait, ce qui est remis en cause par le sujet, c'est le système libéral, c'est le système capitaliste, c'est ça qui est remis en cause. Parce que quand la COP21, comme la COP24, bien sûr qu'il y a des choses, on dit, il faut faire, mais il n'y a aucune obligation. Aucune obligation, tout simplement parce que s'il y avait obligation, il y a une remise en cause du système de consommation. Et si ce système de consommation n'est pas accepté ni par les gros monopoles, y compris par les hommes politiques.
Et par nous aussi, par nous aussi, Alain, non, vous croyez pas? Et par nous, les consommateurs.
Je ne suis pas sûr. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens, par exemple, qu'est-ce qui fait que on puisse acheter un téléphone tous les ans? À votre avis, pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'il y a ce lobbying de dire, et en plus on pille des terres riches. Il y a ce lobbying qui dit, bon, bah, vous avez acheté un téléphone dernier cri, mais maintenant, ce téléphone-là est dépassé, donc il faut...
C'est pas vrai, Alain. Moi, je dis c'est pas vrai. Pour nous, en fait, de dire, non, j'ai pas besoin du téléphone.
Mais, écoutez, on est tous...
Rendez-moi votre téléphone, Alain.
Et je vous rends mon téléphone, mais vous me donnez le vôtre. Pas votre numéro.
On en parlera tout à l'heure. Allez-y, finissez.
Non, ce que je veux dire, c'est que tout est fait pour que, vous voyez les enfants par exemple, les enfants, s'ils ont pas un t-shirt avec, un logo qui représente, tout est fait pour simplement nous attirer dans un piège. Et donc, on n'est pas libre nous-mêmes de cette mode. Enfin, nous-mêmes, il y a des gens qui font, mais en général, moi, je vais à l'AMA. J'ai une AMA parce que c'est des légumes. Uh-huh. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, ouais, mais toi, t'es un bobo. Mais tout simplement parce que l'AMA coûte un peu plus cher.
Ouais, et il y a une appli. qui est sur le téléphone. En tournant rond, c'est terrible. On a compris ce que vous disiez. Vous avez raison, Paul Hidley. Il y a une pression de la société aujourd'hui. Quand on sait tous intellectuellement qu'il faut changer au moins une part du système, en fait, et y compris effectivement nos modes de consommation. Et pourtant, ces modes de consommation, pour la plupart d'entre nous rattrapent. Et c'est peut-être par là que ça doit commencer, non?
Donc, il est assez intéressant de regarder différents scénarios. Clairement, il y a certains scénarios qui demandent une modification très importante de consommation. Il y en a d'autres qui sont assez proches en termes de soutenabilité, qui sont plutôt basés sur une modification de production, de rendre la production plus efficace. Il n'est pas évident, et en plus, certains de ces scénarios sont plutôt basés sur une transformation de système capitaliste que l'abandon de système capitaliste. Donc, c'est pas évident qu'il faut abandonner. C'est peut-être nécessaire, mais tout ce qu'on fait en regardant le futur ne suggère pas que c'est essentiel.
Gilles Boeuf, une autre question qui va dans le même sens sur franceinter.fr. Est-ce qu'on peut arrêter la destruction de la planète sans remettre en cause le modèle économique, le libre-échange, la mondialisation, la société de consommation, etc.?
Alors, bien sûr qu'il faut remettre en cause des choses, ça c'est très clair. Un capitalisme, pourquoi pas, mais encadré. La loi des marchés, pourquoi pas, mais encadré. On peut pas continuer comme ça. Vous vous rappelez, c'est Dalleux qui disait « Le communisme soviétique s'est effondré parce qu'il ne tenait pas compte des réalités du marché. » Bon, un peu facile. Mais le capitalisme va s'effondrer parce qu'il ne tient pas compte des réalités écologiques. On vit au-dessus de nos moyens. Quand est-ce qu'on aura une mentalité qui va changer? Quand Edgar Morin nous dit « Il faut réécologiser la mentalité sur la planète », c'est fondamental. Penser aux humains et aux non-humains, gérer ces questions à la fois qui touchent à la démographie, à l'exploitation forcenée des ressources, surexploitation, et puis à la destruction systématique du vivant. On ne peut pas s'en passer. Donc admettons qu'on en fasse partie, on est dedans, et dans ce cas-là, on comprendra que pour une espèce qui s'est appelée sapiens, fallait quand même le faire. Si on détruit ce vivant, on part avec. Donc c'est là que il y a vraiment les mentalités et les systèmes d'exploitation à changer. Et je suis entièrement d'accord avec Paul, le plus simple pour tout le monde, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange? Comment je fais? Comment je respecte les saisons? Je consomme bien moins de viande. Et tout ça, mis bout à bout, va profondément changer le système. En tenant compte d'une chose, c'est que on consomme pas tous de la même façon non plus. Parce qu'une bonne raison de ce qui se passe aujourd'hui vient de nos modes de consommation à nous, durant les 40 dernières années écoulées au Japon, en Amérique du Nord et en Europe.
Et ce qui vient dans le sens de ce que dit Jean-Luc sur franceinter.fr, on parle tout le temps de la situation à l'étranger, mais pas de celle de la France. Il faut que les Français modifient leur manière de vivre et de consommer. C'est pareil, effectivement, pour chacun. Bonsoir Jean-Marc.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Jean-Marc, on vous écoute.
Merci. J'écoute avec beaucoup d'intérêt votre émission. Pour rebondir sur ce qui se disait tout à l'heure concernant donc le frémissement des politiques par rapport à toute cette problématique. Moi, je suis pas convaincu qu'il y ait un frémissement. Non seulement j'en suis pas convaincu, mais j'ai bien peur que les politiques parfois se rendent complices d'un certain nombre de choses qui sont pas très reluisantes. Je voudrais prendre l'exemple des oiseaux. Il y a 25% des oiseaux depuis quelques décennies qui disparaissent. Or, le gouvernement français, notamment par le biais de son ministre de l'écologie, autorise un certain nombre de pratiques qui sont condamnées par l'Union européenne, comme par exemple la pratique de la chasse à la glu, qui consiste à enduire de colle des branches d'arbustes pour piéger un certain nombre d'espèces, comme les merles ou comme les grives, par exemple, dans un certain nombre de départements de notre pays. Or, les oiseaux, tous les oiseaux se pose sur ces branches engluées de grues. Et ça donne lieu donc à une destruction, j'ai envie de dire, non sélective. Par ailleurs, le gouvernement, il faut le savoir, à travers son ministre de l'écologie encore une fois, a autorisé le prolongement de la chasse aux oies cendrées, alors que la fermeture légale est fixée au 31 janvier.
Ce qui a été retoqué d'ailleurs hein, par le Conseil d'État pour la énième fois, parce que chaque année il y a un décret, et chaque année le Conseil d'État retoque cette disposition.
Absolument. Par ailleurs, il y a une absence de mesures de conservation par rapport à un certain nombre d'espèces qu'on continue à chasser alors qu'on les sait en déclin, comme par exemple la tourterelle des bois, mais il y en a d'autres. Donc il faut que ça aille jusqu'où effectivement pour qu'il y ait réellement un frémissement, une prise de conscience, et qu'au-delà des belles paroles, il y a des agissements. Il faut savoir qu'actuellement l'État français s'expose à des poursuites devant la Commission européenne, puisqu'il est en infraction vis-à-vis d'une directive qui a maintenant une quarantaine d'années, qu'on appelle la directive oiseau.
Merci.
Voilà ce que je voulais dire ce soir.
Merci beaucoup Jean-Marc. On a eu l'occasion déjà, Paul-Lily, de parler des oiseaux ici au téléphone sonne. Et en effet, il a raison, Jean-Marc, on a l'impression d'injonctions contradictoires en quelque sorte. On a tous bien conscience d'eux. Les politiques nous disent qu'ils ont bien conscience d'eux. Je suis prête à parier qu'ils vous le diront lorsque vous rendront ce rapport en début de semaine prochaine. Et à côté de ça, on continue une certaine forme de chasse, on est y compris en désaccord avec l'Europe sur ces questions-là. C'est un peu désespérant, non ? Pas ?
Oui, c'est effectivement difficile. J'ai travaillé étroitement avec les conventions sur la diversité biologique sur les évaluations qui s'appellent le Global Biodiversity Outlook, qui évaluer le progrès vers les objectifs fixés par cette convention sur de biodiversité. Donc il y en a plein d'objectifs qui sont extrêmement louables. Il y en a assez peu qui vont être éteints. Effectivement, il y a beaucoup de prise de conscience. Je pense qu'on peut pas nier ça. Ce qu'on a démontré très clairement aussi, c'est que il y a des actions qui sont mises en œuvre. On a presque toutes des indicateurs sur les actions prises pour la conservation de biodiversité sont en augmentation. Le problème est que, de l'autre côté, et c'est bien remarqué ici, il y a trop d'autres choses qui sont néfastes pour la biodiversité qui ne sont pas stoppées. Donc, il faut qu'on arrête de dire qu'on fait du bien pour la biodiversité, ce qui est vrai, et en même temps faire des choses qui sont néfastes. Et il faut éliminer ces choses, effectivement.
Écoutez cette question, Paul Lidli, c'est pour vous aussi, Gilles Boeuf. Il y en a beaucoup comme ça, je vais vous en livrer deux qui nous arrivent sur franceinter.fr. Il me semble qu'on parle très peu de la surpopulation humaine comme cause fondamentale du désastre écologique. Est-ce que c'est un tabou ? Nous demande un monsieur ou une dame dont je n'ai pas le prénom. Cédric nous dit, pour éviter que l'espèce humaine ne disparaisse, ne serait-il pas le temps d'organiser des politiques de régulation de la population ? C'est extrêmement touchy, ce genre de choses. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que oui ou non, à un moment, il faudra jouer sur la population ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on sait, Paul Lidli, que l'on a en tête ou pas ?
C'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'une fois de plus, je travaille sur les scénarios. Et les scénarios qui sont le plus optimistes concernant la biodiversité ont un ralentissement de la croissance de la population humaine. Si on tend vers une très forte croissance de la population humaine, ça pose des problèmes graves pour la biodiversité parce qu'il faut nourrir cette population, il faut les loger. Donc, par la suite, c'est pas aussi scientifique de faire des prescriptions vis-à-vis de manière de réguler les populations. Ça, c'est complètement hors de notre domaine et surtout le champ de ce qu'on peut faire dans les expertises scientifiques. On peut faire le constat.
Gilles Boeuf, j'aimerais votre avis là-dessus. C'est des questions qui sont excessivement dangereuses à manier, en fait, mais
on l'a déjà abordé avec les démographes en particulier. Pour moi, ça passera par la reconnaissance de la place de la femme dans la société. Aujourd'hui, quand je vois les millions de petites filles qui ne vont plus à l'école. Vous vous rappelez les talibans quand ils reviennent à Kaboul en 2012, les filles ne vont plus à l'école. C'est le cas de beaucoup, beaucoup de populations aussi en Afrique. Quand ces jeunes femmes, ces millions de femmes africaines, tous les jours vont chercher de l'eau, de plus en plus loin, une eau de plus en plus rare et de plus en plus souillée à cause de la diversité qui s'effondre et du climat qui change, elles ne vont pas à l'école. Elles n'ont pas de salaire pour faire ça. Elles ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent et font des mauvaises rencontres en route. Ça fait partie de l'écologie, ceci aussi. Il faut absolument qu'on prenne tout ceci globalement. Nous, je suis d'accord avec Paul, on va pas donner des méthodes de régulation des populations. Les Chinois l'ont fait, hein.
Ouais, ouais. Pas forcément avec réussite d'ailleurs, puisqu'ils y reviennent.
Justement, c'est pour ça que c'est... Bien sûr qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps, mais ceci, pour moi, ça passera d'abord par l'éducation des petites filles et des femmes. Quand ces femmes africaines auront accès au système, je peux vous assurer qu'elles ont des solutions que les garçons n'ont pas pour les questions de changement climatique et d'effondrement du vivant.
Merci Gilbert. Je voudrais qu'on écoute Alain rapidement. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
On vous écoute Alain, allez-y.
Donc moi je suis agriculteur en bio, et donc est-ce que la solution ne viendrait pas par les systèmes pâturants? En France on a beaucoup de prairies, on a beaucoup de races à viande très nobles, bio ou pas bio. Et malheureusement, l'élevage français est en déclin parce que les gens ne veulent pas mettre le prix pour sauver ces races-là. Je parle notamment des races à viande, qui engendrent énormément de prairies. Mmh. Et qui dit prairie dit biodiversité.
Merci Alain pour votre question. Paul Idlis, c'est important que Alain qui est éleveur nous appelle aussi, parce qu'effectivement on parle de baisser la consommation de viande, c'est sûr, mais parmi ceux qui travaillent et participent au maintien de la biodiversité, il y a aussi des gens comme Alain et qui est un éleveur.
Tout à fait. Et quand on parle des questions de régime alimentaire, il faut manier ça avec beaucoup de précautions. Donc, quand on parle de baisse de consommation de viande, la viande qui pose de loin le plus de problèmes, c'est la viande qui est nourrie avec le soja qui vient de l'Amérique du Sud. Donc, il est lié avec la déforestation. On a tous les transports qui est associés. On a des produits qui ne sont pas ressourcés localement. Et effectivement, le constat est extrêmement important. La viande de bonne qualité qui sont levées sur les prairies, effectivement, un nombre pas trop important peut participer à le maintien de la biodiversité. Donc il faut être extrêmement prudent avec cette histoire d'alimentation.
Gilles Boeuf, depuis Bordeaux.
Je préside une réserve naturelle dans les Pyrénées, la réserve de la Massane, et je garde 100 vaches dans ma réserve naturelle. Et bien grâce à ces 100 vaches, j'ai 60 scarabées mangeurs de bouses de vaches qui disparaîtraient si j'avais pas mes vaches. Donc il faut voir que les relations en écologie sont de ce type-là. Quand on dit avec Paul, manger moins de viande, c'est quel type de viande? Il est clair que globalement, de toute façon, pour les éleveurs, exactement. Mais comme la population augmente, il y aura une demande qui sera importante. Mais simplement, il faut dire une chose sur le monde agricole, et j'y tiens beaucoup. Arrêtons le low cost en matière d'alimentation. C'est une hérésie des 10 dernières années. C'est pas parce que c'est pas cher que c'est bon. On accepte d'empoisonner des gens parce qu'ils sont pauvres. C'est lamentable. Et là, il y a un effort à faire. Quand le monde agricole sera correctement rémunéré pour ce qu'il fait, vous verrez qu'ils arrêteront beaucoup ces surconsommations de pesticides.
Il nous reste une question, je vais la prendre dans ma voix, pardon Cécilia, mais j'ai vu que vous aviez appelé. Étant donné que c'est un enjeu mondial, nous dit-elle, que font réellement les organismes internationaux, l'ONU par exemple, pour préserver l'environnement? Paul Lidley, là-dessus, et notamment sur la question de la biodiversité, qu'est-ce que vous répond l'ONU?
L'ONU fait beaucoup de choses à la fois. L'UNEP, qui est le programme sur l'environnement, UNESCO, qui est basé ici, où on a notre réunion à l'heure actuelle. Donc, ils font beaucoup de choses. UNESCO, par exemple, en termes de matière d'éducation, jouent un rôle vraiment extrêmement important, à la fois sur les questions de protection de la nature, mais comme je le viens d'évoquer, aussi sur l'éducation plus généralement. On sait que le voie des changements pour beaucoup de choses passe par l'éducation. Donc, je pense qu'il faut pas, il faut absolument pas nier l'importance de l'ONU sur notre capacité de réagir.
Beaucoup de choses passent par l'éducation. Ce sera la phrase de conclusion. Vous souhaite bonne chance pour cette semaine et cette présentation qui aura lieu le 6, c'est ça? Donc, lundi prochain, de ce gros rapport qui, j'espère pour vous, fera date et nous fera changer un peu quelque chose. Merci beaucoup. Merci à tous.